VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bon début de journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson ce matin à la une de notre émission.
Toujours pas de résultat des élections au Burundi. L'ONU dénonce déjà un scrutin non crédible.
À peine annoncé à Brazzaville, le dialogue national est contesté par les opposants à Denis Sassou Nguesso.
Les forces politiques et sociales suggèrent de prendre des textes rectificatifs pour permettre la réussite de ce dialogue tant attendu par le peuple congolais.
Arrestation en Tunisie une semaine après l'attentat de Sousse.
Je reconnais à regret d'ailleurs que c'est une situation très embarrassante et inquiétante. Mais ça ne me fait pas oublier que la dictature est partie et que Ben Ali n'est plus là.
J-2 avant le référendum en Grèce.
Ah, comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports. Raphaël Nadal éliminé de Wimbledon. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Crise burundaise, les États-Unis annoncent la suspension de formation pour la police et l'armée du pays. Le département d'État demande un report de la présidentielle prévue le 15 juillet dans le pays et menace de revoir l'éligibilité du Burundi à l'AGOA.
Cette sortie intervient après la publication hier du rapport de la mission d'observation électorale de l'ONU au Burundi. Ce document estime que les élections se sont déroulées dans un environnement qui n'était pas propice à la tenue d'un scrutin libre, crédible et fédérateur. Explication de Jean-Roger Billon.
Le scrutin qui a été boycotté par l'opposition s'est tenu au milieu d'une crise politique tendue et dans un climat de peur et d'intimidation généralisé dans certaines parties du pays, souligne le document produit par les observateurs des Nations Unies. La mission d'observation déployée à partir du 1er janvier dernier indique avoir observé des restrictions à la liberté de la presse et des violations des droits de l'homme et d'autres libertés fondamentales. Selon le rapport de 9 pages, seul le parti au pouvoir et ses alliés ont été en mesure de mener campagne dans l'ensemble du pays, les partis d'opposition étant beaucoup moins visibles. La mission conclut donc que l'environnement n'était pas propice à la tenue d'un scrutin libre, crédible et fédérateur. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pris note de ses conclusions. D'après le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, quant au Conseil de sécurité, il a tenu jeudi des consultations à huis clos sur la crise burundaise.
Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine qui tenteront une nouvelle fois ce lundi à Dar es Salaam de dénouer la crise politique burundaise. Toutes les infos sur cette crise à retrouver sur notre site internet voaafrique.com.
Condamnation unanime après l'attaque d'un convoi de la mission onusienne au Mali. 6 casques bleus burkinabés de la MINUSMA sont morts et 5 autres ont été blessés sur l'axe Gundam-Tombouctou. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le Conseil de sécurité ont fermement condamné cette attaque. Pour Samantha Power, représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, les signataires de l'accord de paix doivent tous s'unir contre tous ceux qui menacent la paix au Mali. Le point à Bamako avec le correspondant de VOA Afrique, Kassim Traoré.
6 soldats de la MINUSMA tués, 5 autres blessés, 2 véhicules détruits, c'est le bilan de l'attaque du convoi d'approvisionnement terrestre qui a quitté Tombouctou ce jeudi 2 juillet 2015 pour Gundam. Le convoi a été attaqué à quelques 45 km de Tombouctou. Le patron de la MINUSMA, le Tunisien Monji Hamdi, condamne cette nouvelle attaque qu'il qualifie de terroriste contre les casques bleus. Pour lui, les responsables de ces crimes ignobles doivent être identifiés et traduits en justice dans les meilleurs délais. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a aussi condamné ces crimes. Rappelons qu'au mois de mai dernier, 9 soldats maliens ont été tués sur le même tronçon par des bandits armés avec des dégâts matériels importants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La présidente du Liberia se dit convaincue que son pays réussira à contenir la réapparition du virus Ebola, alors que le pays se croyait débarrassé de l'épidémie. Le Liberia, qui était débarrassé officiellement de ce virus Ebola depuis le 9 mai dernier, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Autre crainte sanitaire, en République démocratique du Congo, où les autorités enquêtent sur des cas suspects dans le Bandundu, à 270 km de Kinshasa. Michel Joseph, le ministre de la Santé, Félix Kabange Numbi, a fait le point hier depuis Kinshasa.
Selon le ministre congolais de la Santé, une équipe d'urgence est arrivée sur place à Massambio, un village de la province du Bandundu. Elle va collecter des données pour des tests. 6 chasseurs sont tombés malades vendredi dernier, selon le ministre. Ils présentent tous des symptômes similaires à ceux d'Ebola, comme la diarrhée, les vomissements et du sang dans les urines. La veille, ils avaient tué une antilope boiteuse qui était probablement malade. 4 des 6 chasseurs sont décédés. Mais signe encourageant, aucun d'eux n'avait la fièvre, l'un des symptômes d'Ebola, ce qui laisse croire qu'ils auraient probablement été victimes d'intoxication alimentaire.
François Hollande poursuit ce vendredi sa tournée africaine par une visite d'État en Angola. Après Cotonou, le président français est arrivé hier à Luanda. Monsieur Hollande doit ouvrir ce matin un forum économique franco-angolais au cours duquel des contrats devraient être signés pour un montant global $1 milliard.
Et interrogé hier sur les accusations d'abus sexuels contre deux militaires français au Burkina Faso, voici ce qu'a répondu le président français.
Il s'agit de soldats qui auraient commis des actes de pédophilie. Qui donc doivent en répondre.
François Hollande, toujours sur cette affaire, les deux pédophiles présumés ont été transférés à Paris, où ils sont entendus par les enquêteurs. Ils ont été placés en garde à vue.
Début hier de la visite de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda est à Conakry pour faire le point sur l'enquête sur le massacre du stade du 28 septembre, où au moins 157 personnes sont mortes en 2009. La procureure de la CPI devrait rencontrer le ministre de la Justice, Cheikh Sako, les juges en charge du dossier, des représentants d'ONG de défense des droits de l'homme et des associations de victimes du massacre.
Au Gabon, l'ancien Premier ministre Raymond Dong Sima fait des remous. Claire Morin-Gibourg, il vient de démissionner avec fracas du parti au pouvoir.
Raymond Dong Sima, qui avait dirigé le gouvernement de février 2012 à janvier 2014, veut, comme il l'affirme, rompre avec le passé. Sur son profil Facebook, il a annoncé qu'il démissionnait du PDG, le Parti démocratique gabonais, du président Ali Bongo Ondimba, pour envisager une autre trajectoire. Dans un livre paru en mars, l'ex-premier ministre critiquait déjà l'hyper-présidence d'Ali Bongo, l'échec de la transition de l'ère d'Omar Bongo père, et il dressait un état des lieux alarmant sur la situation socio-économique du pays où la contestation sociale grandit.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, J-2 avant le référendum en Grèce, alors que le pays a fait défaut sur sa dette, les électeurs sont appelés à dire si oui ou non ils acceptent les conditions des créanciers de la Grèce, notamment le FMI et la Banque Centrale Européenne. A noter que le gouvernement grec appelle à voter non au référendum. Henri Francisque.
Les créanciers d'Athènes ont mis un peu plus la pression en publiant des chiffres épouvantables sur les finances publiques de ce pays. Le Fonds monétaire international a fortement réduit ses prévisions de croissance pour la Grèce, passant de plus 2,5% à 0% seulement. Pessimiste, le FMI prédit que la Grèce aurait besoin d'une nouvelle aide européenne de 36 milliards d'euros dans les 3 ans, même si elle acceptait dimanche le plan des créanciers. Pour le gouvernement grec du Premier ministre Alexis Tsipras, qui n'a aucune intention de sortir de la zone euro, un non servirait surtout à être mieux armé pour la poursuite des négociations avec les créanciers. Difficile de connaître l'issue du vote de ce dimanche, mais une chose est certaine, les Grecs sont fatigués du contrôle des capitaux. Ils ne peuvent retirer que 60 euros par jour et un début de pénurie de billets de 20 euros a été constaté, ainsi qu'un ralentissement du commerce.
À Vienne, poursuite des négociations sur le nucléaire iranien, les diplomates des grandes puissances et de l'Iran seraient tout proches d'un accord, selon le négociateur en chef russe, Sergei Ryabkov, cité par l'agence de presse russe TASS. Hier, le président iranien Hassan Rouhani a rencontré dans la capitale autrichienne le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano.
Drôle d'anniversaire ce vendredi en Égypte, 2 ans déjà que l'armée destituait le président islamiste Mohamed Morsi. Le plus peuplé des pays arabes connaît une vague d'attentats sans précédent depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah el-Sissi a destitué M. Morsi. C'était le 3 juillet 2013, à l'issue de manifestations monstres contre son unique année au pouvoir. On en reparlera tout à l'heure avec la Tunisie dans la deuxième partie de cette émission.
Le Pentagone annonce la mort dans une frappe aérienne en Syrie d'un haut responsable logistique du groupe djihadiste État islamique. Tarek Ben Tahar Al-Ani Al-Harzi a été tué par une frappe de la coalition le 16 juin à Shadadi, dans la province d'Asaké, selon le porte-parole du ministère américain de la Défense.
Et puis l'avion Solar Impulse 2, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire, a largement battu le record mondial de vol en solitaire lors d'une étape de son tour du monde entre le Japon et Hawaï. Mais son pilote épuisé doit encore tenir 24 heures. C'est tout pour ce journal en ce vendredi matin sur VOA Afrique. Tout de suite, la Minute Éco présentée ce matin par Timothée Donangmaï.
Le holding bancaire du Burkinabé Idrissa Nassa, Coris Bank International, vient de mobiliser une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour le financement du projet hôtelier Sheraton de Bamako, a appris l'agence APA jeudi auprès des responsables de la dite banque à Ouagadougou. La banque import-export Afrexim Bank, basée en Égypte, garantira le prêt qui s'étale sur une période de 2 ans. La construction du futur Sheraton Bamako, un établissement hôtelier de 5 étoiles, permettra au Mali d'augmenter sa capacité hôtelière en vue du sommet Afrique-France qu'il abritera en 2016. L'entreprise pétrolière publique nigériane, NNPC, a rapporté jeudi avoir recensé 3700 cas de sabotage de ses oléoducs en 2014, soit un manque à gagner de 60 milliards de naira, l'équivalent de 299 millions de dollars. Le sabotage des oléoducs est motivé par le vol de pétrole massif au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, plus de 2 millions de barils par jour. Dans son dernier rapport annuel, la NNPC a annoncé une hausse des cas de sabotage sur ses installations de 4,5% en 2014. Le gouvernement camerounais a accepté de rechercher des financements pour assurer la construction à 100% de l'infrastructure ferroviaire en vue de l'évacuation du fer produit dans le gisement de Mbalam Nabeba, situé dans l'est du pays, près du Congo-Brazzaville, d'après l'exploitant australien Sundance Resources. Selon l'agence APA, le dit financement, à boucler entre 6 et 12 mois, devrait être obtenu à travers un prêt de la Chine, où vient de séjourner le premier ministre camerounais Philemon Yang et éventuellement d'autres pays amis.
Merci Timothée. Place à présent à la page des sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Nicolas.
On parle football, c'est l'été, c'est la saison du mercato, les transferts. Quelles sont les dernières nouvelles?
Oui, l'international camerounais Benoît Assou Akoto file en Ligue 1 française où il a signé un contrat d'1 an avec Saint-Etienne. À 31 ans, le défenseur des Lions Indomptables compte 24 sélections avec l'équipe du Cameroun.
Et l'Ivoirien Wilfried Canon qui signe à Lille.
Oui, selon l'équipe, le défenseur central âgé de 21 ans du club néerlandais Dado Lahey, qui est sous contrat jusqu'en 2017, devra signer incessamment avec Lille un contrat de 5 ans. Il y retrouvera notamment l'entraîneur Hervé Renard avec qui il a remporté la CAN cette année.
En NBA, à 39 ans, l'inépuisable Tim Duncan, l'emblématique joueur des Spurs de San Antonio, compte bien jouer encore la saison prochaine.
Je serai sur les parquets la saison prochaine. C'est ce qu'a déclaré le quintuple champion NBA au quotidien San Antonio News. Duncan, qui aura 40 ans en avril 2016, est sous contrat avec les Spurs jusqu'à la fin de la saison prochaine. Le pivot avait entretenu le flou sur ses intentions après l'élimination des Spurs dès le premier tour des playoffs 2015. Le big fondamental a fait toute sa carrière à San Antonio, qui l'a conduit au titre NBA en 1999, en 2003, en 2005, 2007 et 2014.
On part à Londres pour parler de tennis sur le gazon de Wimbledon.
Oui, l'Espagnol a été éliminé dès le deuxième tour du tournoi de Wimbledon hier jeudi après sa défaite contre l'Allemand Dustin Brown, 102e mondial et issu des qualifications en 4-7, 7-5, 3-6, 6-4 et 6-4. C'est la quatrième année d'affilée que le double lauréat espagnol 2008 et 2010 chute avant les quarts de finale à Londres. Battu en huitième de finale l'an passé, Nadal avait été défait d'entrée en 2013 et au deuxième tour en 2012.
Les autres résultats de cette quatrième journée avec vous, Bagassi.
Oui, en simple, messieurs, deuxième tour, James Ward de Grande-Bretagne a battu Jiří Veselý de Tchèque 6-2, 7-6, 3-6, 6-3. La victoire du Britannique Andy Murray, numéro 3 mondial, sur le Néerlandais Robin Haas 6-1, 6-1, 6-4. Et en simple dame, la Danoise Caroline Wozniacki, numéro 5 mondial, a battu la Tchèque Denisa Albertova 6-1, 7-6, 8-6. Et l'Allemande Angelique Kerber, numéro 10 mondial, a battu Anastasia Pavlyuchenkova de la Russie 7-5, 6-2. Et enfin, Petra Kvitova, numéro 2 mondial, a battu la Japonaise Kurumi Nara 6-2, 6-0.
Merci beaucoup, c'était Bagassi Koura pour le journal des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Nouvel appel pour exiger la libération immédiate de deux militants congolais de Filimbi, arrêtés depuis le 15 mars dernier à Kinshasa. Déjà 100 jours que Fred Bauma et Yves Makwambala sont accusés de terrorisme par les autorités congolaises. Malgré un rapport parlementaire qui prouve le contraire, le gouvernement persiste, mais la mobilisation demeure pour obtenir la libération des deux hommes. Elie Sango a joint un membre de l'organisation Lucha, Lutte pour le changement. On écoute Juvin Kombe.
Dans la pétition, clairement, il est demandé que ces deux activistes de droits de l'homme qui ont été arrêtés rien que parce qu'ils ont participé dans un atelier demandant aux jeunes citoyens congolais d'être engagés à la démocratie. C'est la fait qu'ils soient arrêtés. Pour nous, c'est vraiment une juste raison pour laquelle nous avons signé cette pétition pour qu'elle puisse aussi augmenter la pression aux autorités congolaises qui ont prétendu que ces jeunes étaient des terroristes alors qu'ils ne faisaient qu'exercer leur droit à la liberté d'expression.
C'est là une énième pétition que vous signez. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités de Kinshasa entendent vos revendications?
On ne peut pas baisser les bras parce qu'ils font semblant de ne pas entendre. Nous allons continuer à leur montrer que ce n'est pas exact. Ils ont tort d'arrêter des activistes qui ne font rien. Alors qu'il y a des rebelles qui font des désordres dans ces pays, on s'acharne contre les citoyens qui ne font qu'exercer leur droit à la liberté d'expression. Ce n'est pas juste. Raison pour laquelle nous sommes totalement engagés à poursuivre avec les actions de cette ampleur, étant donné que nous agissons dans nos violences.
Une commission parlementaire qui a enquêté sur le dossier est arrivée à la conclusion selon laquelle les activistes n'avaient pas de visée terroriste comme les accusaient le gouvernement. Est-ce que vous pensez que si le gouvernement n'a pas entendu la commission parlementaire, le gouvernement va vous entendre?
Nous impatientons de voir la division qui est faite dans ces cadres. Il y a certains députés même qui ont rencontré le chef de l'État. Lui-même a dit qu'il prenait bon note de ces revendications qui lui étaient présentées. Mais jusque-là, pas de suite favorable parce que la fois dernière, le procès a commencé. Nous pensons que nous ne pouvons que marteler sur la demande que cela soit fait très rapidement parce que nos collègues n'ont pas le droit de rester en prison. Ils sont censés être avec nous maintenant et ils doivent les libérer pour que cela soit pratique.
Juvin Kombe de l'organisation Lucha, il était joint à Goma.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
À Brazzaville, les opposants au président Denis Sassou Nguesso conditionnent leur participation au dialogue national à la mise en place d'une commission paritaire d'organisation de ces assises. Les opposants congolais affirment que la commission actuelle n'est pas paritaire et qu'elle ne comprend que des cadres du parti au pouvoir. Écoutons depuis Brazzaville notre correspondant Nguelan Goussou.
Dans une déclaration lue par Jean-Gustave Ntondo du Conseil national des républicains du pasteur Ntomi, les plateformes politiques de l'opposition, les membres de la société civile et quelques syndicats ont demandé au président Denis Sassou Nguesso de revoir le processus d'organisation du dialogue national.
Les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel suggèrent à son Excellence Monsieur le Président de la République de prendre des textes rectificatifs pour permettre la réussite de ce dialogue tant attendu par le peuple congolais. Ce n'est qu'à ces conditions que les forces politiques et sociales engagées dans le respect de l'ordre constitutionnel pourraient participer à un tel dialogue. Le dialogue étant une vertu sociale qui facilitera la réconciliation nationale.
Moussa Ela, un autre opposant, a exigé la parité dans l'organisation de ce dialogue.
Ça ne nous satisfait pas. Parce que nous avons voulu un dialogue inclus, c'est vrai, un dialogue qui devait porter uniquement sur la gouvernance électorale. Mais en fait, le président nous présente un dialogue avec un ordre du jour déjà préconçu, alors qu'on devrait mettre en place une commission, comme il a annoncé, une commission qui devait organiser ce dialogue de façon paritaire, organisée par toutes les parties. Mais je crois que le président vient de publier certains décrets. En fait, pour nous, nous pensons que ce sont des décrets qui sont au mépris pour la démocratie.
Paul-Marie Mpouélé, le coordonnateur du FROCAD, la principale plateforme politique du pays, si leurs conditions n'étaient pas satisfaites, il n'irait pas à ce dialogue.
Si ces conditions-là ne sont pas réunies, ça veut dire que le président de la République ne veut pas tel qu'il l'a démontré par les décrets qu'il venait de signer, il ne veut pas qu'il y ait une partie, mais peut-être la plus grande partie de la population congolaise qui ne participe à ce dialogue, qui n'aura finalement plus le sens de dialogue, mais qui sera un monologue, parce que ça sera des retrouvailles des cas membres du PCT et de leurs affidés.
Même la société civile, longtemps considérée comme force modératrice, a pris parti. Jean-Jacques Bayom Cassador, membre de la société civile.
Aujourd'hui, la société civile ne doit pas être spectateur, elle doit être partie prenante parce que c'est l'avenir du pays qui se joue. Vous savez, nous avons un pays qui a connu des guerres et donc la société civile ne peut pas laisser aux seuls politiques de décider.
En attendant, la commission d'organisation nommée mercredi par le président Denis Sassou Nguesso devra rapidement se mettre au travail. Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
On reste sur les bords du fleuve Congo pour parler de ce nouveau rapport d'Amnesty International. L'ONG dénonce les violations massives des droits de l'homme au cours de l'opération Bataya Bakolo, la gifle des aînés en Lingala. Entre avril et septembre 2014, les autorités du Congo-Brazzaville ont expulsé pas moins de 179 000 ressortissants de la RDC voisine. Selon Amnesty, ces expulsions collectives pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Pour les détails, Claire Morin-Gibourg a joint l'auteur du rapport, Evie Franck.
Plusieurs actes qui ont été perpétrés dans le cadre de l'opération Mbataya Bokola, comme des violences policières, des détentions arbitraires, des expulsions du territoire, des persécutions et même des viols, et ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et dans cette situation-là, c'était les ressortissants de la RDC qui étaient ciblés par l'opération. Ce qui nous a surpris vraiment, c'est le climat de xénophobie frappant sur le terrain de la ville de Brazzaville. Et en plus, ce climat était vraiment alimenté par les autorités. Donc premièrement, les autorités, ils ont demandé à la population de dénoncer les ressortissants de la RDC. Ils disaient des maisons criminogènes parce que l'opération était menée à cause de raisons de sécurité. Et ça s'appelait les Kulunas, qui sont des gangs criminels de la RDC. Mais vite, tous les ressortissants de la RDC étaient assimilés à des Kulunas. Amnesty International a obtenu des chansons qui incitaient à la discrimination. Nous avons documenté des cas de violence.
Les témoignages que vous avez recueillis, et notamment des viols des femmes, sont particulièrement violents.
Oui. Par exemple, moi j'ai même parlé à une dame qui vendait des poissons sèches au marché. Un jour, la police est venue les menacer au marché. Ils ont ravi 300 $ et ses marchandises. Ensuite, quand elle a fui le marché avec ses 4 collègues, les policiers les ont suivis. Ils sont entrés dans la maison où ils étaient et ils les ont violés tour à tour. Après cet incident, quand les femmes se sont dirigées vers l'hôpital, ils ont été refusés l'accès aux soins à cause de leur nationalité. Et donc après, ces femmes, ils ont quitté Brazzaville pour Kinshasa, notamment pour obtenir des soins de santé.
Evie Frank d'Amnesty International, elle était jointe à Nairobi. En Tunisie, arrestation de 8 personnes en lien avec l'attaque contre un hôtel de la station balnéaire de Sousse qui a fait, je vous le rappelle, 38 morts vendredi dernier. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Les autorités annoncent des mesures fortes pour assurer la sécurité des touristes et des Tunisiens. Pour une analyse, Claire Morin-Gibourg a joint la journaliste Nazia Redjiba.
Je reconnais, à regret d'ailleurs, que c'est une situation très embarrassante et inquiétante. Mais ça ne me fait pas oublier que la dictature est partie et que Ben Ali n'est plus là. Je n'aime pas me rappeler de ces dates-là, qui sont des dates difficiles, et j'espère qu'on va les dépasser. Elles ne vont pas me faire oublier le 14 janvier 2011. Mais c'est vrai que l'intrusion du terrorisme complique beaucoup les choses, nous donne des inquiétudes à tous, non seulement pour la sécurité du pays, mais aussi pour la démarche, le processus démocratique. C'est une étape difficile. On annonce d'une façon tardive ce plan Vigipirate copié, en soi-disant, sur le plan Vigipirate français. C'est pas très clair. On n'en voit que les manifestations spectaculaires.
Quel serait le bon moyen de lutter contre le terrorisme en Tunisie aujourd'hui?
Ça s'articule sur plusieurs étapes. Le court terme, c'est mettre les gens en confiance. Les gens sont souvent un peu inquiets et déçus quand ils voient des incompétences gérer le pays. Alors on se demande quelle sera la possibilité pour un gouvernement aussi faible, pour assurer le... Je crois qu'une... Un remaniement est nécessaire. Le moyen terme, c'est, et j'ai appelé à ça depuis 2012, c'est organiser une grande conférence nationale sur le terrorisme où toutes les forces de la Tunisie se réuniraient avec des experts des pays qui ont eu ces expériences, tels que l'Algérie, la France, même les États-Unis, qu'on décortique un peu le terrorisme, aussi qu'on arrête les responsabilités. Le terrorisme a eu des protections locales depuis les élections du 23 octobre 2011 et l'avènement de Nahda. Elles ont été un peu trop indulgentes avec les salafistes et avec les intégristes et avec les islamistes radicaux.
La journaliste tunisienne Naziha Redjiba.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et une fenêtre sur les États-Unis où les leaders catholiques demandent aux candidats à la présidentielle de répondre à l'appel du pape François, le souverain pontife qui leur demandait de faire preuve d'un courage politique profond. Les dignitaires ecclésiastiques insistent pour que ces politiciens mettent l'accent dans leur campagne sur l'amélioration de l'environnement, tout autant que sur les thèmes traditionnels de l'inégalité des revenus et l'opposition au mariage homosexuel et à l'avortement. Les explications d'Idrissa Seydoudia.
C'est la première fois que les évêques catholiques américains demandent ouvertement aux candidats à la présidence d'écouter les remontrances contenues dans l'encyclique du pape, reconnaît l'évêque Richard Bates de Des Moines dans l'Iowa, un des premiers États à tenir des consultations dans les primaires aux États-Unis. Dans son encyclique, le pape a appelé à une révolution profonde pour corriger un système économiquement pervers qui permet, dit-il, aux riches d'exploiter le pauvre et à transformer la terre en un immense tas d'immondices. Pour le révérend père Bud Grant, qui participait à la même conférence de presse que ses homologues dans le centre et l'est de l'Iowa, les politiciens doivent avoir le courage de faire la chose correcte et non pas nécessairement la chose politiquement commode. Cette pression des évêques catholiques américains risque de compromettre l'alliance traditionnellement solide entre les chrétiens évangélistes et les électeurs catholiques conservateurs, tout en créant une autre pression sur les républicains qui s'appuient sur leur foi pour les guider quand il s'agit des questions sociales. Cela crée aussi un dilemme pour les 6 candidats catholiques briguant l'investiture du Parti républicain pour la présidence de 2016. Les enseignements et positions de leur chef spirituel, le pape François, étant en conflit avec l'idéologie traditionnelle des républicains sur l'économie et le changement climatique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au +225 58 92 85 40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pinault à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Rodrigue Badas au Cameroun à Douala. Comme lui, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.